Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine nous allons laisser nos lointains ancêtres dormir en paix et nous allons partir à la rencontre de notre compatriote bergeracoise Hélène Duc. Alors elle est l'auteur de « Entre cour et jardin », sont des mémoires sans concession, agrémentées de photos publiées par les éditions Pascal Biographie en 2005. Bien sûr, l'on se rappelle, pour les plus anciens comme moi, de Mao d'Artois dans l'adaptation télévisée des Rois maudits, d'après l'œuvre de Maurice Druon par Claude Barma en 1972. Alors, ce feuilleton rediffusé actuellement sur LCP Public Sénat, alors les plus jeunes peut-être se souviendront d'elle dans le rôle de la grand-mère de Tanguy, film d'Étienne Châtillaise en 2001, cette nouvelle, réalisation des Rois maudits aura lieu en 2005 avec Hélène Duc, mais dans un rôle différent. Alors pour préciser un peu ce qu'elle fut, Hélène Duc née à Bergerac en 1917 dans une famille protestante. Son goût des belles lettres l'amène très naturellement à une carrière de professeur de français. Ainsi, lorsque la guerre éclate en 1939, elle enseigne au collège Jules Ferry de Bergerac tout en dirigeant une troupe de théâtre. Parmi ses élèves, une certaine Juliette Gréco, venue se réfugier avec sa mère et sa sœur en Périgord. Alors, en 1940, Hélène Duc quitte le professorat et se consacre au théâtre. Alors, Juliette Gréco, seule à Paris, va sonner à la porte de son ancienne professeure de français, et Hélène Duc, la comédienne, la prend sous son aile et devient pour Juliette une deuxième mère. Et ils vivent dans une pension à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, d'où décollera la carrière, bien sûr, de Juliette Gréco. Ce qu'elle a fait pour Juliette, Hélène Duc, mais aussi sa mère l'ont fait pour de nombreuses familles juives de Paris et de Bergerac. En 2005, alors qu'elle est reconnue juste parmi les nations et que la presse interroge sur sa bravoure, elle dira « Je ne me sens pas héroïne, ce que j'ai fait est normal, c'était la moindre des choses, c'était le fruit de mon éducation ». Et elle s'éteindra en 2014. Alors, précise qu'elle était protestante. Quand elle parle de son éducation, c'est une éducation, bien sûr, rigide, mais pas tout à fait. Et donc, elle était protestante. Alors, donc pour reprendre ce livre, « Entre cour et jardin » d'Hélène Duc, aux éditions Pascal Biographie en 2005, voici ce que nous dit la quatrième de couverture. Dans les années 70, la France entière découvre sur son petit écran, dans le rôle de la comtesse Mao d'Artois, une magnifique comédienne, Hélène Duc. Hélène Duc trouve enfin un rôle à sa mesure. Mao d'Artois, nièce de Saint-Louis et tante du comte d'Artois, interprétée par l'inoubliable Jean Piat. Inspirée de l'ouvrage de Maurice Druon, « Les Rois maudits », cette série est adaptée pour la télévision par Claude Barma sur les dialogues de Marcel Julien. Et en 2005, Hélène renoue avec les Trois maudits, adaptés par José Dayan. Elle y incarne la femme du sénéchal de Bouville, le merveilleux Jean-Claude Brialy. Alors dans ce livre, magnifique d'érudition, de tendresse, d'anecdotes, Hélène Duc éternelle second rôle, d'où livre ici son siècle de mémoire. Hélène est née en 1918. Nous voyons comment, de l'occupation à Bergerac, en passant par l'état subventionné de l'après-guerre aux années fastes des comédies bien françaises, Hélène Duc traverse presque ce siècle et nous fait partager ces rencontres prestigieuses qui nous font rêver. Alors, il y a toute une liste de personnages, alors Charles Dullin, Pierre Freinet, Gaby Morlaix, Fernandel, Poiret, Robert Hirsch, Francis Blanc, Jacques Charon, Jean Le Poulain, Olivier Husneau, Francis Huster, etc. Voilà. Alors donc, on va voir un peu ce qu'elle nous dit dans ce livre. Il y a bien sûr une introduction. Alors voilà, cette introduction du livre de Entre cour et jardin d'Hélène Duc. Ce matin, nous filons plein nord. Je tente de raconter l'histoire de la basilique de Saint-Denis à mon jeune conducteur qui reste indifférent. Il préfère parler cinéma et il a raison, nous sommes là pour ça. C'est mon dernier jour de tournage de ces Rois maudits, deuxième version, dans laquelle je suis plus Mao d'Artois, mais la comtesse de Bouville. J'ai perdu quelques galons, mais j'ai la fierté d'être toujours là. Nous roulons donc dans la forêt de Compiègne, en plein pays valois, dans un ciel sombre, s'effilochent d'épais nuages noirs bordés çà et là de franches roses. Il pleut de la neige, il fait froid, tout à coup l'imposante abbaye de Chalice se dresse. C'est là que tout à l'heure le fils de Louis le Hutin sera baptisé. Jean-Claude Briady, monseigneur de Bouville, curateur au ventre, surveille Jeanne Moreau, la nouvelle Mao d'Artois, dont il craint qu'elle ne nourrisse de mauvaises intentions à l'égard de l'enfant. Dans la chapelle austère et belle, il fait très froid, le prêtre officie. Un bébé de 4 mois est plongé nu dans le baptisphère rempli d'eau chaude par le machiniste quand même, parce qu'il ne faisait pas très chaud. L'enfant hurle un bon moment, la mère aussi, fausse alerte, la mort viendra plus tard. Je suis debout à côté de mon cher époux, vous vite Briali. Jean-Claude prend soin de moi et elle demain, un machiniste, s'il vous plaît, faites apporter une chaise pour mademoiselle Duc. Moi, mais Jean-Claude, arrête, je n'ai pas besoin d'être assis, je vais très bien. Et Jean-Claude reprend, écoute-moi, tu dois être bien raisonnable, demain tu seras au chômage, profite-en. Éclat de rire général, Briali vient drôlement, comme toujours, d'exprimer la crainte d'une équipe, quand un film s'achève, allons-nous retrouver du travail. Pour moi, il y a longtemps que la retraite a remplacé le poids si déprimant du chômage, mais qu'un metteur en scène se souvienne de moi, et hop, la bête se réveillera et repartira pour un tour. Nous rentrons à Paris, malgré la beauté de ce pays, entre Aisne et Oise, qui donna tant de rois de France, je suis heureuse de retrouver la capitale, c'est que là-haut, dans le nord, je me sens exilé de ma terre natale, mon chez-moi, bon Bergerac. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un second chapitre, mais qui s'intitule tout simplement Bergerac. Alors c'est ça, comment je pourrais dire, il y a sa petite enfance. Alors, voilà ce qu'elle nous dit dans ce chapitre Bergerac. Je n'ai jamais compris la raison de mon attachement au lieu de ma naissance, auquel rien dans ma nature ne me destinait. Je n'aimais pas ces maisons disparates, la cathédrale pure faite 19e siècle, les cimetières sans arbres, le catholique et le protestant, juste assez proches pour ne pas perdre leur rivalité séculaire. Et je n'aimais guère la plaine, parfois je grimpais à vélo, soit à Rosette, où mon grand-père surveillait ses vignes, ou à Montbazillac, où, disait-on, le moulin de Malfora, on pouvait voir clair, apercevoir, quand il fait clair, apercevoir les Pyrénées qui nous cachaient la rouge Espagne. Heureusement, ma maison me tenait lieu de tous les paysages jusqu'à ce que je sois contrainte de la vendre. Ma mémoire sensorielle y retrouverait ce qu'elle avait enregistré dès le premier âge, les bruits des odeurs, l'humidité des murs, les étoiles contenues dans le cadre de la fenêtre, si exactement à leur place, selon les saisons que j'ai eu parfois la sensation de mes premiers jours, de mon premier cri, des visages qui se penchaient sur mon berceau pour me morder et plus tard pour recommander d'être raisonnable. Alors, je ne sais pas si elle allait à Montbazillac par quelle route elle prenait, mais ça monte quand même légèrement. Je pense qu'à vélo, ça ne devait pas être très facile. Voilà. Alors, je vais continuer la lecture donc, de ce livre, Entre cour et jardin. Quand je pense à elle, je dis ma vieille maison grise. Elle n'était pourtant pas si vieille ni grise, mais superbe entre les deux portails de pierre. Celui de gauche amenait les calèches directement dans les écuries. Il y avait le lavoir où toutes les lessives se faisaient à l'eau courante du Caudeau qui passe sous la ville. Au fond du jardin se trouvait le grenier pour l'avoine des chevaux et au-dessous un poulailler et des clapiers. Pour le reste, une fontaine de marronniers et des roses. On met quand même un peu de couleur. Alors, elle poursuit ainsi, ce qui épatait les visiteurs, c'était le vaste hall, quatre colonnes en trompe-l'œil de marbre comme les murs entre lesquels s'ouvraient les portes des salons, le rouge à gauche, Louis XVI, et le jaune à droite dans lequel le piano et la bibliothèque donnaient un air de gaieté et de jeunesse. Quand je suis né, ma maison n'avait que 80 ans, c'est jeune pour une maison, mais ses habitants semblaient avoir le même âge. À 18 ans, ma mère, ne sachant pas ce qu'était un homme, avait laissé à ses parents le choix de mari. L'heureux élu se révéla véritable sadique des voisins à leur domicile de Lyon, où il était magistrat, prévèrent mon grand-père que sa fille était victime d'un pervers. Alors, bien sûr, c'est sa sœur aînée, et je crois qu'elles ont quelque chose comme 16 ans de différence. Alors mes grands-parents ramenèrent leur fille enceinte à Bergerac, où elle accoucha de ma sœur Marcel. Voilà. En 1902, donc, comme je disais, donc sa sœur Marcel et Hélène Duc, ben, elles ont 16 ans de différence. 16 ans plus tard, l'état civil m'a enregistré sous le nom de Marcel Geneviève Hélène, au lieu de Hélène Geneviève Marcel. Marcel était jalouse, elle se met à discorde, ce n'est que beaucoup plus tard que je compris à quel point elle avait souffert du remariage de notre mère et de ma naissance. Elle ne me pardonna jamais, elle avait pourtant des atouts, elle était belle, ses longs cheveux étaient torsadés en un lourd chignon, elle avait de grands yeux verts et inquiétants, sa rapidité à calculer, son bon sens égoïste et sa fortune. Mon père était riche et avare, elle fut de même. Bon, c'est un jugement, bien sûr, tout personnel. Alors, parce que vous l'avez compris, c'était quand même des viticulteurs et quand même, comment je pourrais dire, de riches viticulteurs. Alors, sa fortune lui attirait beaucoup de prétendants. Elle tomba amoureuse d'un jeune médecin bordelais, le docteur Pem. Horreur, il était catholique. La guerre des religions sévissait alors à l'époque et l'on imposa à ma sœur un mari charentais qui faisait dans le bouchon, c'est-à-dire qu'il était distillateur de cognac. Un peu nouveau riche, mais protestant, au retour de son voyage de noces, Marcel déjà enceinte, accusa ma mère de l'avoir contrainte à ce mariage. Ma mère épouvantée d'avoir rendu son aînée malheureuse, sombra dans une noire dépression dont seul le général de Gaulle devait parvenir à la guérir près de 20 ans plus tard. Alors, heureusement, alors elle poursuit ainsi, bref, mes ancêtres étaient des terriens, des paysans, et devinrent marchands, agrandir leur domaine, furent propriétaires nantis. Cette vie ordinaire était abolie par le goût du savoir. J'en ai la preuve en feuilletant les vieux livres, épargnés par les rats et l'humidité que mon grand-père avait accumulés. Il était l'ami des frères Mounet-Sully, tout en précisant un peu ses noceurs impénitents. Mounet-Sully jouait les tragiques grecs, mais était incapable de lire dans le texte. Ainsi, mon grand-père termina-t-il sa lettre de félicitations à Mounet-Sully par son entrée à la Comédie française en 1872, par ces mots sévères. Faites que l'illustre maison de Molière ne soit pas pour vous un simple baraque de campement. Parce que t'es pas très gentil d'ailleurs. Bon. Donc, Abel, mon grand-père était foncièrement radical socialiste, comme beaucoup, comme je crois presque tout à Dordogne. Il recommandait aux Diennes d'être toujours attaché à l'idée des États-Unis d'Europe et aux vertus républicaines. La devise de cette vieille famille huguenote était « servir Dieu dans la joie ». Grand seigneur, certes, mais pas commode, Abel Rambaud, qui avait consenti au remariage de sa mère avec mon père, Louis Duc, dont la famille affichait un catholicisme étroit. Il avait bien accueilli ce bel homme, médecin militaire, libre penseur et franc-maçon. C'est uniquement parce que mon père n'avait pas embrassé les opinions de sa brave, de sa propre famille. Ce fut la vie de ce couple qui m'a engendré. Je l'ignore. Ma sœur prétend que Louis n'avait épousé Jeanne que pour sa fortune. Mais j'ai trouvé dans les carnets de guerre de mon père des vers, des lettres d'une grande tendresse et ce beau nom de Jeanne Lane qui lui avait donné. D'ailleurs, sa mère était assez distinguée et sensible pour séduire un homme intelligent et artiste, ce qui était incontestablement mon père. Il était l'ami et l'interprète de Reynaldo Hahn et de Charles Lecoq. Il avait une très belle voix. Et sur ce chapitre-là, tout au moins, maman et grand-mère étaient prolixes. Voilà, alors, je vais continuer un tout petit peu, voilà. Alors, elle va, bien sûr... mon père, là, ce qu'il a dit, mon père est devenu chirurgien par la force des choses. Pauvre Louis, si fin, si artiste, poète à ses heures. J'ai trouvé dans ses documents une photo qui m'a glacé d'horreur. Il est entouré de son équipe, assistant et infirmier. Il tient un éclat de marmite, c'est-à-dire une bombe de l'époque de la guerre de 1914. Il a écrit de sa main, docteur Louis Duc, coupeur de crâne. Il fut tué 2 mois avant l'armistice. Il avait eu le temps de constater que sa fille Hélène était un beau bébé, mais qu'elle mourait de faim, comme toujours par la suite. Ma mère n'avait pas de lait, et mon père s'enfuit à la maternité de Bordeaux chercher une nourrice, et il ramena Nounou. Voilà, mais je vais arrêter là cette description de la pré-enfance et la jeune enfance donc d'Hélène Duc, et on se retrouvera, ma foi, la semaine prochaine pour un peu ce que nous dit ce livre entre Cour et Jardin, mémoire d'Hélène Duc. Bien, bonne semaine, je pense qu'il va faire quand même un peu de soleil, mais pour le moment, c'est pas très beau, et donc, à très bientôt.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.